Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement et merci si vous êtes là depuis le début de l'émission. À suivre, Bruno Donnet, le garçon qui pointe tous les jours son télescope sur la planète médiatique. Et en l'occurrence, il a regardé les rails de la SNCF. Notre invité, aucun rapport avec les rails, Frédéric Becbédé pour son spectacle DJ set littéraire. Il en parle beaucoup dans le spectacle. Lisa Marie Marquez va nous dresser son portrait pré-fame, tout ce qui lui est arrivé avant la célébrité. Et puis pour clore l'émission, les stories de Lebret, Marc-Antoine Lebret et ses voix. Bonjour Margot Barallon.
Bonjour Philippe, bonjour tout le monde.
Qui me regarde avec ce petit sourire en coin. Bonjour Stéphanie Loire.
Bonjour Philippe.
C'est les rails qui vous ont fait rire.
Oui, enfin,
il en parle beaucoup plus que
innocent,
moi.
C'est totalement innocent, évidemment.
Il en parle beaucoup, beaucoup. Alors je vais spoiler. Il raconte comment Becbédé raconte dans son spectacle comment prendre de la coke en public en faisant semblant de se moucher.
Et faire un tuto.
Donc vous voyez que j'ai rien trahi. Bruno Donnet, bonjour.
Bonjour Philippe.
Beaucoup plus sérieusement, Bruno, vous décortiquez ici les mécaniques médiatiques et ce matin, vous expliquez pourquoi et comment, mercredi dernier, au moment de traiter de l'ouverture de la concurrence à la SNCF, toutes les chaînes de télévision ont relayé la même intox.
Oui, et cette belle intox, Philippe, c'est notre confrère Samuel Gontier qui l'a repéré ce week-end sur le site de Télérama. Un très intéressant papier qui est venu télescoper une petite vidéo que j'ai découverte hier sur les réseaux sociaux. Alors, que s'est-il donc encore passé à la télé? Eh bien, figurez-vous que mercredi dernier, à l'image de Carole Gessler sur France 3, toutes les rédactions étaient drôlement intéressées par la fin du monopole de la SNCF.
C'est une petite révolution dans le monde ferroviaire. La région PACA devrait être la première collectivité à se passer de la SNCF sur l'une de ses lignes TER.
Révolution dans le sud de la France, car sur 160 km de voies ferrées, qu'est-ce qui va bientôt se passer, Madame BFM TV ?
La SNCF perd l'exploitation de la ligne TER Marseille-Nice.
Une ligne de chemin de fer va passer du public au privé, et c'est la société Transdev qui a été choisie pour l'exploiter. Alors, eh bien, alors, sur TF1, Gilles Boulot s'est posé une question.
Qu'est-ce que cela va changer concrètement pour les voyageurs ?
Excellente question qui a conduit Anne-Sophie Lapix de France 2 à prendre le même wagon.
Qu'est-ce que cela va changer justement pour les voyageurs ?
Le hic, c'est que pour répondre à cette légitime interrogation, tous nos petits camarades sont allés se renseigner auprès de la même source, la région PACA, qui, par la voix de son vice-président, un certain Jean-Pierre Sérus, capté ici dans le 13h de France 2, leur a expliqué ça.
La mise en concurrence, c'est souvent une autre approche de la part des opérateurs, avec des prix qui sont rationalisés et également avec une évolution du service.
La mise en concurrence, c'est super. Traduisez donc, le passage du public au privé n'a que des avantages. Des avantages ? Ah bon ? Mais lesquels alors ? Dites-nous, tiens, vous par exemple, France 3.
Transdev promet de proposer plus de trains pour le même prix en 2025.
Plus de trains pour le même prix ? Putain, c'est vachement bien. Mais il y en aura combien exactement, monsieur France 2 ?
L'entreprise Transdev promet de doubler le nombre d'allers-retours sur la ligne de 7 à 14 par jour. Tout cela au même prix qu'aujourd'hui.
Ah ouais, deux fois plus carrément, bah dis donc. C'est les voyageurs hein, qui vont être drôlement contents, pas vrai TF1 ?
Si c'est un plus, tant mieux.
Ah oui, parce qu'en plus j'ai oublié de vous dire un truc, Philippe, mais en ce moment, sur cette ligne, c'est l'enfer. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit dans le 13h de TF1.
2h10 de retard pour le TER Nice-Marseille ce matin. Presque la routine pour ses usagers.
Eh oui, il y a des retards, sans arrêt, et c'est pas tout.
Y aura-t-il aussi moins de grèves ?
Il y a aussi des grèves à cause de ces emmerdeurs de la SNCF. Alors que TF1 est allé vérifier en Bretagne, entre Carhaix et Paimpol, sur la seule ligne de chemin de fer déjà exploitée par Transdev.
Aucun Transdev, jour de grève n'a été observé ici.
Il n'y en a pas. Voilà. Alors c'est à ce moment-là, Philippe, que le charme des télescopages a opéré. Car comme je vous le disais en préambule, hier, en parcourant Twitter, je suis tombé sur une petite vidéo postée par un cheminot. Il s'appelle Anas Kazib. Et devinez un peu à quel endroit il se trouvait.
Il y a une grève majoritaire aujourd'hui chez Transdev pour dénoncer la régression sociale, pour dénoncer la casse des conditions de travail et de salaire.
Au beau milieu d'un piquet de grève, où ça ? Chez Transdev. Ça alors, c'est dingue, hein. TF1 m'avait pourtant garanti que c'était le paradis.
Aucun jour de grève n'a été observé ici.
Du coup, j'ai eu très envie de vous révéler aussi les conclusions de la belle enquête de notre confrère de Télérama. Car figurez-vous que lorsque toutes les chaînes nous ont répété, comme BFM TV...
En fait, Transdev s'est engagé à multiplier par deux les rotations.
Eh bien, en fait, elles ont oublié d'aller vérifier un petit détail. Car contrairement à ce que leur a laissé entendre Jean-Pierre Pipeau, là, le gars de la région PACA, le doublement du nombre de trains ne doit strictement rien à la bonne volonté de Transdev. Pourquoi ? Eh bien parce que cette condition figurait noir sur blanc dans l'appel d'offres qu'a lancé le Conseil Général. Il était donc obligatoire de faire passer le nombre de trains de 7 à 14 par jour, et ça n'est pas une compagnie privée qui en a décidé ainsi, comme la télé nous l'a martelé, mais bien une collectivité public, car oui, Philippe, une fois n'est pas coutume, emporté par le train-train de l'information, nos petits amis de la télévision ont oublié de s'éloigner de la bordure du quai et de s'arrêter à la station vérification.
Merci beaucoup Bruno Donnet pour cette vérif, merci, merci. Margot Barallon, votre programme du jour, je le connais mais dites-le. Je veux le savoir.
On va s'intéresser à la plus grosse sortie cinéma de la rentrée, Dune, évidemment, chef-d'œuvre littéraire réputé inadaptable, alors est-ce qu'il a été bien adapté ? Eh bien, réponse tout à l'heure.
Quel teaser, Stéphanie Loire, musique ?
Je vais vous parler d'une fusion entre la techno, l'électro et le rock, incarné par le pape de l'électro en France, qui est Laurent Garnier, et un groupe de rock qui s'appelle The Liminianas.
Il va adorer ça, Bec Bédé, il sera notre invité dans un instant. Il va parler de son spectacle, un spectacle d'un genre totalement nouveau, un DJ set littéraire, mais d'abord musique, c'est Clara Luciani sur Europe 1.
Jusqu'à 11h, Europe 1 Culture Média.
Respire encore, c'était Clara Luciani sur Europe 1.
9h, 11h.
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Bonjour Frédéric Becbédé.
Bonjour Philippe Vandel.
Écrivain avec des romans traduits dans le monde entier, 99 francs, L'amour dure 3 ans qui sont devenus des films, je ne vais pas tout citer. Vous êtes journaliste, vous êtes critique littéraire, chroniqueur au Figaro, président du Prix de Flore et figure du tout Paris littéraire, comme on dit. Derniers ouvrages parus dans des genres totalement différents, quoique un roman qui n'a pas de titre, ou plutôt un smiley, L'homme qui pleure de rire, et puis cet essai, Bibliothèque de survie. Ce sont 50 livres que vous avez choisis à contre-courant de la morale ambiante, et on est un petit peu dans notre sujet ce matin, puisque votre actualité, c'est, vous avez créé, vous avez inventé le premier DJ set littéraire. Ce sera au Bataclan les 23 et 24 septembre. Il y a déjà eu une première édition, un spectacle OVNI. C'est quoi un DJ set littéraire? Qu'est-ce que vous y faites?
Écoutez, comme vous le savez, puisque vous êtes membre du jury du Prix de Flore, j'aime bien mixer. Je suis DJ depuis 35 ans. J'avais créé le Gagas Club. J'aime bien passer des sons. Et je suis aussi vaguement écrivain, donc il m'arrive souvent de faire des lectures de mes œuvres, voilà, en général avec un tabouret, une bouteille d'eau minérale et un micro. Là, j'ai voulu fusionner les deux, donc les deux choses que j'aime le plus au monde. Écouter des disques, faire danser les gens et en même temps lire des textes. Donc il y a un mélange de tout ça, c'est le décloisonnement absolu, c'est la fusion, c'est le moment de tout réformer, de tout révolutionner. Et c'est au Bataclan le 23 et 24 septembre.
C'est festif, j'ai pas tout vu, j'ai vu une captation, j'ai vu une trentaine de minutes. Il y a un décor, déjà vous êtes dans le fauteuil d'Emmanuel.
Oui, le fauteuil en rotin.
Il y a un tourne-disque à l'ancienne, il y a quoi d'autre?
Il y a des vinyles, il y a des livres, il y a des tapis d'Orient, il y a des mannequins en cire autour de moi. C'est comme si j'étais dans mon appartement et j'accueille le public chez moi. Et je commence à... Alors d'abord on écoute des voix d'écrivains qui aimaient sortir de chez eux. Donc ce sont Albert Camus, Louis-Ferdinand Céline, on entend Françoise Sagan dire qu'elle aime faire la fête, on entend tous ces écrivains que j'admire, Sacha Guitry bien sûr, qui était quand même le modèle de l'écrivain qui monte sur scène et qui dit ses textes. Et puis ça me rassure, et puis après je me lance et je lis pendant une heure et demie des extraits de tous mes livres.
Vous les connaissez par cœur? Il y a un prompteur?
Il y a une béquille quand même devant moi, mais je commence à le retenir à peu près par cœur. Il y a DJ Pone, c'est très important parce que je suis pas tout seul, et c'est un immense disjockey qui donc envoie des musiques pendant que je parle, en dessous ou entre les textes. Et puis tout ça est mis en scène vraiment magnifiquement par Jérémy Lipman. C'est très très, faut le dire, c'est le contraire des lectures d'auteurs traditionnels. C'est comme plus proche du concert de rock, en fait.
Ah, je vais donner un exemple pour être dans l'ambiance. Vous lisez ou vous citez ou vous déclamez un extrait de votre roman 99 francs.
Je me prénomme Octave et je m'habille chez APC. Je suis publicitaire. Eh oui, je pollue l'univers. Je suis le type qui vous vend de la merde. Ah ah, applaudissez tant que vous voulez. Je vous fais rêver de ces choses que vous n'aurez jamais. Ciel toujours bleu, nana jamais moche. Un bonheur parfait, retouché sur Photoshop. Images léchées, musique dans le vent. Quand à force d'économie, vous réussirez à vous payer la bagnole de vos rêves, celle que j'ai shootée dans ma dernière campagne. Je l'aurai déjà démodée. J'ai 3 vogues d'avance et m'arrange toujours pour que vous soyez frustrés. Le glamour, c'est le pays où l'on n'arrive jamais. Je vous drogue à la nouveauté. Et l'avantage avec la nouveauté, c'est qu'elle ne reste jamais neuve. Il y a toujours une nouvelle nouveauté pour faire vieillir la précédente. Vous faire paver, tel est mon sacerdoce. Dans ma profession, personne ne souhaite votre bonheur. Parce que les gens heureux ne consomment pas.
C'est d'un cynisme, c'est glaçant, ça a été écrit il y a 20 ans, c'est toujours actuel.
Et la situation a empiré, parce que si on m'avait dit quand j'étais concepteur, rédacteur chez Young et Rubicam, que tout le monde voudrait devenir publicitaire, que les gens seraient tous un média avec les réseaux sociaux, et en fait, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas imaginer, quoi. Mmh. Et ce qui est dingue, c'est qu'on fait croire aux gens qu'ils sont un média, alors qu'en réalité, ils sont la cible. Ils sont la cible de nouvelles formes de pub. Oui, voilà. Non, mais ça, c'est un moment où je raconte, enfin, je vous passe en revue des vieux livres, parce que ça date de 2000. Ouais. Donc c'est...
J'en parlais tout à l'heure avec Stéphanie Loire, donc il faut le dire à propos de drogue. Vous donnez la technique, parce que vous parlez de drogue dans ce texte, donnez la technique pour prendre la drogue en public dans un mouchoir, la technique de l'éternuement à l'envers, racontez ça d'un trait, si j'ose dire.
Oui.
J'ai pas fait exprès.
Non, mais écoutez, ne retenez pas juste ce moment de provocation sur une heure et demie de spectacle
très
poétique.
Non, mais je pensais aux parents qui amènent leurs enfants.
Oui, oui. Non, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est pas pour les enfants. Je crois pas que ce spectacle soit pour les enfants, ça faut le dire.
Voilà, mention légale, la drogue, c'est pas bien. Mais comme vous l'avez mis dans l'extrait que vous donnez aux journalistes, j'ai été assez étonné.
C'est un extrait justement du livre avec le smiley qui raconte comment un garçon passe la nuit à essayer d'écrire sa chronique pour France Publique et n'y arrive jamais. Effectivement, à un moment, il se mouche à l'envers, c'est-à-dire qu'on met son nez dans un mouchoir et au lieu d'éternuer, on aspire. Ouais. Mais le truc marrant, c'est qu'aujourd'hui, avec les masques, c'est bien plus facile que sans.
Vous dites de ne pas parler de ça et vous en rajoutez. Fin de la parenthèse. Frédéric Becbédé est avec nous et dans un instant, il y aura votre portrait pré-fame avec Lisa-Marie Marquez. Culture Média continue.
9h-11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Landel.
Le premier DJ set littéraire, il a été inventé par Frédéric Becbédé, c'était en juin dernier au Bataclan, ça revient le 23 et le 24 septembre, il est avec nous dans ce studio et au platine à l'instant, Lisa-Marie Marquez. Bonjour Lisa-Marie.
Bonjour Philippe,
DJ
bonjour
Lisa.
À tous.
Voilà, DJ Lisa est avec nous pour faire le portrait de l'invité, portrait inédit, un scratch, le portrait de l'invité avant qu'il soit connu.
Et oui, bonjour Frédéric Becbédé. Vous êtes écrivain primé, mais aussi réalisateur, critique littéraire, co-créateur d'une vodka bio, ex-animateur de télévision, chroniqueur radio, ex-publicitaire. Mais comment en êtes-vous arrivé là? On va rembobiner et revenir ensemble sur tout ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Frédéric Becbédé, vous êtes né à Neuilly-sur-Seine et vous avez grandi à Paris dans une famille bourgeoise d'origine béarnaise. Enfant, votre tout premier héros s'appelle Colargol. C'est un ourson qui ne pense qu'à s'amuser.
T'as pas connu ça? Si, mais je savais pas que vous aimiez à ce point. Moi, je trouvais ça ringard. Je savais pas que vous aimiez.
Menteur.
Puis Frédéric Becbédé.
Je suis plus âgé que lui, c'est pour ça. C'est générationnel.
Puis Frédéric Becbédé, vous découvrez le cinéma. La première fois que vous voyez un film sur grand écran qui n'est pas un dessin animé, c'est au cinéma Rue Le Prince à Paris. Et ce film, c'est La Folie des Grandeurs avec Louis de Funès et Yves Montand.
Ah oui. Ça fait deux.
Je crois que la musique est de Paul Naref.
Possible. Oui. On va le vérifier.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Tout à fait. Enfant, votre talent, c'est de tout noter. Vous réalisez des carnets de bord, des voyages que vous faites, par exemple, aux États-Unis ou en Indonésie avec votre père et votre frère Charles. Vous notez tout, l'heure du réveil, les visites et les activités. Mais est-ce que vous les avez gardés, tous ces carnets de bord?
Oui, bien sûr, je les ai gardés pour la publication dans la Pléiade.
Non, mais on ne sait jamais avec vous si c'est vrai ou si c'est faux.
Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. J'ai commencé à écrire à l'âge de 8 ans et je considère que c'est une infirmité. C'est vraiment comme une maladie qui vous tombe dessus de refuser de vivre et de vouloir tout capter et tout éterniser sur le papier.
Et blague à part, vous les avez déjà relus, ça raconte quoi?
Mais je pense que j'ai pas tellement changé de style. C'est-à-dire que j'aimais bien noter ce qui était marrant, original, bizarre. Par exemple, quand mon frère n'arrivait pas à sortir de l'eau en ski nautique. Des trucs comme ça. Parce que je sais que c'est lui qui a cafeté, donc... Ouais. Donc il a droit à être assaisonné.
Côté scolarité, Frédéric Becbédé, vous êtes un bon élève, notamment en français, où vous avez des facilités. C'est votre prof de 5e qui vous ouvre l'esprit sur la littérature. Mais il y a aussi les BD de la collection Métal Hurlant et celles que vous écrivez vous-même avec des copains. Aussi, à 11 ans, vous imaginez un scénario de mini-roman, une sorte de nouvelle baptisée Bems John contre les Spong. En fait, vous avez inversé le J et le B de James Bond. Donc, Bems John.
Oui, vous avez remarqué.
Oui, tout à fait. Et cette histoire que vous avez écrite, vous l'envoyez au journal Pif Gadget, qui la publie sous forme de BD, mais sans vous prévenir. Non. Et vous vous en rendez compte un jour en allant acheter le nouveau numéro de Pif au kiosque.
Ouais. Attendez, moi j'étais abonné à Pif, j'ai jamais vu votre BD.
Bah écoutez, franchement, c'est un souvenir que j'avais complètement oublié.
Incroyable.
Mais c'est tout à fait exact, mais j'étais ulcéré d'avoir été plagié par Pif. Bon, enfin, maintenant, je leur avais envoyé.
Ouais.
Mais oui, je ne crois pas que j'étais cité. Donc ça m'a beaucoup énervé parce que j'étais déjà très narcissique.
Vous êtes depuis votre plus jeune âge un très grand fan de science-fiction et vous êtes tellement passionné que vous vous retrouvez dans l'émission Temps X des frères Bogdanov. Vous avez 13 ans, évidemment, on a l'extrait, on écoute.
Et je voudrais maintenant m'adresser à un jeune invité. Il a 13 ans, il s'appelle Frédéric. Il est, je crois, fanatique de science-fiction, il en lit depuis 5 ans. J'aimerais que tu me dises ce qu'est ta définition de la science-fiction, Frédéric.
Ma définition de la science-fiction, c'est une recherche prospective du possible.
Ouh là là.
C'était génial. Un peu déjà le masque et la plume.
Ouais, mais c'est vachement bien.
Une recherche prospective du possible.
La séquence est formidable.
Voilà. C'est marrant parce qu'on a parlé de science-fiction dans l'émission de dimanche dernier avec le livre de Kazuo Ishiguro.
Et on va parler d'une tout à l'heure avec Margot Barallon, donc préparez vos arguments.
D'accord.
Et pour vous faire lire autre chose que de la science-fiction, votre oncle vous prête un roman policier, San Antonio de Frédéric Dard, et le commissaire San Antonio fera tellement partie de votre vie à partir de ce moment-là qu'il deviendra même un copain. C'est vrai?
Ah mais moi, c'est vrai que j'ai une admiration sans bornes pour Frédéric Dard parce que sa verve, sa richesse de vocabulaire, sa drôlerie, sa cruauté, son art de la digression. Si j'écris, c'est peut-être grâce à lui.
À la fin du lycée, vous passez le bac, vous étudiez ensuite les sciences économiques avant d'entrer à Sciences Po, option service public. C'est pendant ces années-là que vous allez créer le Cacasse Club ou Club des analphabètes cons mais attachants, un club dédié à la fête et à la débauche. Après Sciences Po, vous étudiez la communication au CELSA et vous commencez votre carrière dans la pub chez CLM, l'agence de Philippe Michel, grand publicitaire des années 80-90, tout en écrivant votre premier roman. Vous avez 25 ans et Mémoire d'un jeune homme dérangé est publié. Votre carrière d'écrivain est lancée, votre carrière de publicitaire aussi. La suite, on la connaît et moi, je m'arrête là.
Merci beaucoup.
Merci DJ Lisa Marie.
Fame.
Et voilà. Et c'était bien Paul Naref, on m'a dit en régie.
Oui, c'est ça.
Il manque vacances dans le coma, mais sinon tout y est.
Oui, 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 oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bah oui, c'est... Ça, non, c'est surtout ce qui est fou, c'est que je me dis qu'il faut que je corrige mon prochain livre, parce que mon prochain livre parle aussi de mon enfance. J'ai oublié l'épisode sur Pif Gadget.
Il faut le rajouter.
Donc il va falloir que je corrige les épreuves très vite, là.
Ça allait être ma question finale. Vous êtes au stade des épreuves. Comment il va s'appeler?
Ah, c'est secret. Mais c'est, je peux dire que c'est un roman français, tome 2. Le sous-titre, voilà.
Ça sort chez Grasset.
Oui, début janvier.
Merci Lisa-Marie Marquez. À demain. Dans un instant, c'est notre première indispensable, Margot Barallon, qui va nous parler de Dune, film très attendu. Mais qu'est-ce que ça vaut? La précédente édition, c'était un peu...
Ah, moi j'aimais bien, moi.
Vous avez bien aimé.
Le David Lynch, c'était pas mal.
Allez, à tout de suite.
9h, 11h,
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
Frédéric Becbédé avec nous, qui présente le premier DJ set littéraire. Sera au Bataclan les 23-24 septembre. Et vous m'avez dit, il y aura une tournée.
Oui, on va d'abord on continue octobre, novembre, décembre, deux dates par mois à Paris, et puis ensuite on va se promener dans ce beau pays et aussi en Suisse, en Belgique. Il faut continuer à s'amuser. Alors je vois des chroniqueuses qui ont apporté des papiers.
C'est un truc de dingue.
Puisqu'elles ont,
mais on
c'est
est
trop
faible.
Facile. Mais faut raconter pourquoi vous explosez en vol quand vous étiez chroniqueur sur une radio.
C'était un horaire beaucoup. C'était beaucoup plus tôt.
Voilà.
Donc c'était très difficile.
En fait, vous avez fait la nuit blanche. Vous avez perdu votre texte. Et voilà. Un peu de votre esprit.
Et mon emploi aussi.
Et votre emploi.
Et du coup, je trouve que franchement, c'est un peu facile d'arriver avec son papier.
Vous avez fait un livre à la suite de ça, de cet épisode. C'est le livre avec le smiley. On peut pas dire le titre qui n'existe pas. Des portraits au vitriol de Nicolas Demorand,
des humoristes de fantaisie.
Ouais,
vous
faites
un roman.
Vous faites une prophétie dans le livre. Vous verrez, à l'apparition de ce livre, Octave, donc votre personnage, sera massacré pour crime de lèse-hilarité. On est aussi une émission média. Ils vous ont réengagé sur France Inter quand même. Vous êtes au masqué la plume.
J'ai trouvé ça extrêmement
émission mythique
de la part de France Inter et de m'accepter dans cette émission où je suis très très heureux depuis deux ans.
Ouais,
en fait, j'avais commencé là-bas il y a 25 ans, à la fin des années 90.
On va pas trop faire la promo non plus d'autres radios. On est ici, on parlait de...
Enfin, c'est le dimanche soir.
Voilà. Et personne n'écoute.
C'est pas mon concurrent.
Je plaisante.
Non, c'est pas vrai.
Un moment du spectacle. Vous tenez à rétablir la vérité entre votre personnage, justement, Octave Parango, et vous-même, Frédéric Becbédé. Vous parlez de nuit blanche, alcool, drogue, vie sexuelle. On comprend que vous avez romancé, vous avez magnifié, vous avez exagéré. Ce qui m'a intéressé, c'est ceci. Vous dites, Octave pense qu'il est ringard de dire que c'était mieux avant. Or, vous-même, vous pensez que c'était mieux avant. Qu'est-ce qui vous fait dire ça?
La nostalgie, la vieillesse, d'avoir mûri, d'avoir déménagé de Paris, et puis d'avoir maintenant un regard distant, à la fois géographiquement et temporellement, avec cette vie trépidante qui fut la mienne.
Ah, c'est votre vie qui était mieux avant.
Oui, j'ai une...
Mais c'est pas le monde.
Je pense que le monde...
C'est le vieux proverbe des Espagnols qui disait « sous Franco, on était jeunes
». Oui. Non, mais j'ai une... Oui, un mélange des deux. Nostalgie et aussi, quand même, j'ai l'impression que j'ai connu une période plus libre, plus insolente et plus hédoniste. Bah oui, c'est facile à voir. Il suffit de se promener partout et de voir des gens masqués, contrôlés, surveillés, voilà, en panique. On était peut-être moins trouillards. En tout cas, on avait moins de raisons d'être angoissés. Peut-être dans les années 70-80.
Ouais. Et alors maintenant, j'ai une question toute trouvée pour Margot Barallon. Est-ce que Dune, c'était mieux avant? Puisqu'il y avait le film de David Lynch, vous l'avez... vous l'avez vu, le David Lynch
j'aimais bien. J'ai pas vu le Denis Villeneuve, mais je suis fanatique
moi,
de
je l'avais trouvé
Dune.
Pas
j'adore
tôt,
le roman, moi.
Je l'avais trouvé pas tôt, donc maintenant, j'aurais bien à voir l'avis de Margot Barallon. Ce film est très, très attendu, Dune.
Oui, donc c'est l'adaptation d'un grand classique de la science-fiction, chef-d'œuvre littéraire, mais un peu maudit au cinéma.
De Frank Herbert.
Exactement, réputé, inadaptable. Et donc... David Lynch avait livré sa version en 84. Vous êtes fan, Frédéric Becbédé?
J'ai toujours trouvé la bizarrerie visuelle de Lynch était assez intéressante.
Voilà.
Le personnage du baron qui flottait dans les airs, couvert de pustules, il y avait des choses bien, quoi.
Oui, visuellement, ça a inventé des choses. C'est quand même considéré aujourd'hui comme un des plus mauvais films de Lynch.
Ouais, c'est vrai.
Et alors, le problème, c'est surtout que tous les autres cinéastes qui ont essayé n'ont jamais réussi, ne serait-ce qu'à le tourner. Et donc là, c'est le Canadien Denis Villeneuve à qui on doit Incendie, Premier Contact et Blade Runner 2049. qui s'y colle.
Il se passe quelque chose en moi. Quelque chose s'éveille dans mon esprit, je n'ai aucun contrôle dessus.
Qu'est-ce que tu as vu ?
Une croisade se prépare.
Tu rêves souvent de choses qui se réalisent, telles que tu les avais vues ? Oui.
Alors, je rappelle à gros traits hein, l'histoire pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc, tout se passe dans un futur très très lointain sur la planète Arrakis, qui est connue pour son désert et son épice qui en fait la richesse. Et deux familles, les Atreides et les Harkonnen, se disputent la gestion de cette planète. Vous ajoutez à ça les Fremen, donc ça c'est le peuple natif d'Arrakis qui aimerait bien qu'on arrête de venir les coloniser tous les quatre matins. Le héros s'appelle Paul Atreide, c'est le fils Atreide donc, et il va se retrouver pourchassé par ses ennemis Harkonnen et obligé de rejoindre les Fremen. J'espère que tout le monde a pris des notes.
On a pris des notes et vous disiez que c'était un film maudit, Margot, et forcément la question qu'on se pose c'est est-ce que la malédiction se poursuit avec cette version ?
Alors déjà, Denis Villeneuve a quand même réussi à tourner et sortir son film, donc, c'est ouais. La première victoire, et non. Ensuite il a eu, dit-il, une totale liberté de création. Et alors ça, pour moi, c'est vraiment ce qui est très réussi avec sa version de Dune. Il y a un travail visuel et sonore incroyable, on sait qu'il en est capable. On l'avait vu avec Blade Runner 2049. Et là, il a choisi de tourner dans des décors naturels dans le désert jordanien. Je m'étouffe parce que figurez-vous qu'à l'écran, vraiment, on sent la poussière de la planète Arrakis. Il y a des créations de costumes, de vaisseaux spatiaux absolument spectaculaires, des images magnifiques. Et ça fait quand même très plaisir de voir un blockbuster aussi exigeant avec un véritable souffle épique. C'est une déclaration d'amour au cinéma, hein, le vrai, celui qui se regarde sur grand écran, évidemment. Et puis le casting est aussi très bon. Mention spéciale, bien sûr, à Timothée Chalamet dans le rôle de Paul et Rebecca Ferguson, une actrice que j'aime beaucoup, dans celui de sa mère.
Alors là, je vous laisse reprendre votre souffle et je vous pose la question, est-ce que c'est donc une totale réussite ?
Eh bien là, non. Je suis désolée, je suis obligée de dire que je ne suis pas complètement convaincue. C'est un film très impressionnant, je l'ai dit, mais c'est aussi un film qui manque terriblement d'humain. Pour moi, la science-fiction, c'est un genre qui repousse évidemment les limites de l'imagination, mais pour parler quand même de nous, à la fin, pour parler de ce qui agite, de ce qui meut les êtres de chair et de sang. Alors, il y a de la matière en plus avec Dune, hein. C'est un roman qui parle d'énormément de choses, d'écologie, de colonisation, de religion aussi, puisque Paul est vu un petit peu comme un messie.
Bon, oui, il s'inspirait de la Bible, en fait, Frank Herbert. Mais c'est aussi le cas de la Guerre des Étoiles. Donc, les grandes sagas de SF s'inspirent souvent de récits anciens, enfin, d'un sauveur qui arrive, qui va sauver l'humanité.
Et donc là, ils en font quoi ? Ils en font de la science-fiction premier degré ?
Ben, en tout cas, c'est un très bel objet, mais assez froid. Moi, j'ai besoin d'être emportée au cinéma. Et le pire dans tout ça, c'est que Denis Villeneuve a, selon moi, réalisé ce qui est l'un des meilleurs films de science-fiction de ces dernières années, avec Premier Contact. Mmh. Et Premier Contact, ça racontait quoi ? Ça racontait une invasion d'extraterrestres, mais en fait, ça racontait surtout les fondements, ce qui nous fait, ce qui nous façonne en tant qu'être humain. Donc, il en est capable de raconter ça. Alors, je désespère pas que ce soit le cas avec la suite, puisqu'il faut rappeler que ce film Dune n'est censé être que le premier.
Ah non, mais c'est Star Wars, il y aura Dune 2, Dune 3.
Normalement, oui. Alors, on verra si le second arrive déjà à voir le jour, parce que c'est pas sûr.
Mais il est déjà tourné, le second ?
Ah non, 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 ah bon, le second n'est pas tourné. La Warner ne s'est engagée que sur un seul film.
Ah bon, d'accord, ok, ça... gros débat. Ouais.
Et ça dépend du succès de ce premier volet. D'accord. Donc, il faut aller le voir si on veut voir si ça rectifie le tir avec le second.
Vous irez le voir ?
Bien sûr, oui, évidemment. Et ça sort quand ?
Demain.
Ah ben voilà, j'y vais demain.
Voilà, super. On se demandait ce qu'allait faire Bec Bédé demain. Vous serez à Paris, vous serez dans le Pays Basque.
Je serai dans le Pays Basque, mais il y a des cinémas aussi là-bas, hein,
je sais, c'était le sens de ma question. C'est pas les Parisiens qui pensent que tout s'arrête à la porte du périph. Merci beaucoup, Margot Barallon. On va parler musique avec vous, Stéphanie Ward. Dans un instant, un duo, on va parler d'électro. Bec Bédé connaît ça par cœur. Culture Média continue, à tout de suite.
9h-11h, Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie du romancier et critique et journaliste Frédéric Bec Bédé, qui lance le premier DJ set littéraire. C'est lui, il est aux platines et il raconte sa vie et plein de choses comme ça. Et on va parler de DJ aussi avec Stéphanie Loire, bonjour.
Bonjour Frédéric, bonjour Philippe, bonjour à tous. Exactement, on va parler musique et fusion entre Laurent Garnier et un groupe de rock psychédélique qui s'appelle The Liminianas. Ils se sont associés pour un album concept, mais avant de vous en dire plus sur cet album, j'aimerais quand même faire les présentations pour ceux qui ne connaissent pas. D'un côté, Laurent Garnier.
Vous le connaissez bien, Bec Bédé.
Oui, il était DJ à la soirée Factory, que j'avais organisé à la Power Station en 87.
Wow. Avec le Cacasse Club.
Avec le Cacasse Club.
Ça s'est fini comment? Ouais.
Ben, on était tous déguisés en Andy Warhol et on a perdu nos perruques partout.
Et quelques points de vie accessoirement. Et beaucoup de soirées à son actif. Laurent Garnier, il est compositeur, il est producteur, il a 26 ans d'électro au compteur. Garnier, c'est le premier DJ fait chevalier de la Légion d'honneur. Parmi les standards de sa discographie, il y a ce titre qu'on entend qui a fait trembler tous les dancefloors du monde. Voilà, ça c'est Crispy Bacon et ouais, ça date de 97. De l'autre côté de cette association, il y a The Liminianas, Marie à la batterie et Lionel, son mari, à la guitare. Un duo de Perpignan qui, depuis plus de 10 ans, propose un rock chanté, parlé, sur fond de garage psychédélique. On écoute.
Dans l'air flotte un parfum étrange. Plutôt de lavande et de beignets.
Pour vous réaliser combien cette association est surprenante, Laurent Garnier et The Liminianas, je vais employer des métaphores. Alors du côté de la littérature, par exemple, ce serait un peu comme si Duras et Hergé écrivaient un livre ensemble, deux pointures, mais qui dans leur domaine, mais qui n'ont rien à voir ensemble.
L'amant de la Castafiore.
Par exemple, du côté, je sais qu'il y a des amateurs de bonne chère qui nous écoutent. Si je dois employer une métaphore culinaire, ce serait un terre-mère, une rencontre entre le foie gras et l'oursin, surprenant mais savoureux. Alors leur projet commun, il s'appelle Des Películas, puisque vous avez fait espagnol tous, vous savez ce que ça signifie.
Película, un film.
Exactement, voilà, ça suit, j'aime bien.
Et des
Películas, un film, tout d'accord, simplement. Il retrace cet album, le parcours chaotique et les amours contrariés de deux adolescents en cavale. Saul, le héros qui est à la marge, qui passe ses journées à regarder des films et à écouter des disques. Et de l'autre côté, Juliette, qui n'a même pas 18 ans, qui travaille dans une caravane et se prostitue. Ça pourrait sonner comme un pitch d'un film de Tarantino, non?
Oui, tout à fait, ouais, ça fait envie.
Mais le film n'existe pas, c'est la bande-son d'un film qui n'existe pas.
C'est la bande-son d'un film qui n'existe pas, c'est une histoire sonore, c'est un film musical.
Il se passe dans ta tête, mais
ouais,
Philippe.
Mais ouais, l'œil est dans l'œil de celui qui la regarde.
Je sais que vous avez un imaginaire très riche, Philippe. On écoute un extrait du titre, Que Calor.
Dans le clip.
On y entend aussi la voix d'Eddie Pistolas, ouais, qui est officier au sein d'un groupe franco-chilien qui s'appelle Nova Materia. Alors cet album, il est né d'un coup de foudre entre Les Liminianas et Laurent Garnier. La rencontre, elle s'est jouée en 2017 lors d'un festival qui est du côté de l'Ourmarin, qui s'appelle le festival Yé, qui est entre autres organisé par Laurent Garnier. Ce qui les unit, c'est l'amour des musiques de la trance et l'envie commune de raconter une histoire plutôt sombre d'ailleurs. Parmi les titres de ce road movie sonore, il y a aussi un titre hypnotique, il s'appelle Soul. Écoutez.
Il s'agit d'un petit mec de province. Il aime la musique et le cinéma.
On y retrouve une ambiance un peu proche aussi de celle de l'histoire de Melody Nelson,
qui exactement,
a sûrement dû inspirer Laurent Garnier et Les Liminianas. Alors pour cet album, Laurent Garnier, il a rameuté pas mal d'invités, notamment Bertrand Belin, qui a déjà collaboré avec The Liminianas sur d'autres albums. Il a écrit deux textes, il en chante un, que je sais que vous aimez beaucoup, Philippe.
J'adore, et j'adore même le titre. Au début, c'était le début. J'adore
voilà,
ce titre.
On écoute un extrait.
Au début, c'était le début.
Et vers la fin, c'était la fin.
Nos micros sont ouverts avec Bec BD.
Oh, pardon.
Le feu au château. L'oiseau dans le mazout.
Alors, c'est Bachung, hein. Ça ressemble à Bachung.
C'est vrai qu'on sent la patte Bachung aussi, ouais.
Mais on sent aussi la patte Belin.
Exactement,
sûr,
la patte Belin, et tout simplement, ce sont Les Liminianas et Laurent Garnier. Alors, Des Películas, ce n'est ni un album rock, ni un album techno. C'est un mariage musical qui n'a pas forcément besoin d'être défini, même si nous, les journalistes, on a toujours besoin de définir les choses. On ferme les yeux. Encore une fois, si vous n'êtes pas au volant, bien sûr, je le précise, c'est important quand on écoute la radio.
Ouais.
On ouvre les oreilles et on se laisse embarquer dans ce scénar sombre. à l'atmosphère torride.
On peut le voir sur scène cet album, il y aura des concerts.
Il va y avoir un concert qui sera au Trianon le 6 décembre prochain à Paris pour un concert qui fera honneur à cet album-là.
Merci beaucoup Stéphanie Loire, on salue Bertrand Belin. Dans un instant, on va retrouver Marc-Antoine Lebray pour ses stories. Notre invité Frédéric Bédé reste avec nous, c'est la dernière partie de Culture Média. J'ai pas salué Margot Barallon, c'est fait, salut, à bientôt.
9h, 11h,
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie de Frédéric Becbédé, DJ set littéraire, ce sera lui sur scène au Bataclan avec de la musique, avec des voix de grands auteurs. Et aussi, ces voix à lui, vous allez lire des extraits de vos livres.
Quand on lit des extraits de tous ces livres, surtout quand on publie depuis 1990, eh bien, en fait, on raconte la trajectoire d'un être humain. Oui, c'est très beau. Merci. Merci. On voit un type qui a été jeune il y a très longtemps.
Et qui est un peu triste de moins sortir en boîte, surtout que les boîtes soient fermées. Quand vous avez démarré en juin, il y a des gens qui y sont allés. C'était en gros une boîte de nuit déguisée, alors qu'elles étaient interdites dans le reste du pays.
C'est vrai que ça, c'était pas mal, parce que ça a attiré beaucoup de gens qui étaient très déchaînés, parce qu'ils venaient dans un théâtre et finalement, ils se levaient assez vite pour taper dans les mains et sauter en l'air.
Comment se termine le show? Comme ça. Avec BBD et un DJ sur scène et tout le public qui monte sur la scène et qui vous rejoint. Alors on voit pas, mais à l'image, c'est un gros, pour être poli, boxon.
Ah oui, tu parles de ce qui se passe dans, dans la salle. Je croyais que tu parlais dans le studio.
Non, pas du tout, pas du tout.
Non, non.
Non, ce qui se passe dans la salle.
Dans la salle,
c'est joyeux, c'est festif.
Oui, c'est vrai. Oui, c'est un spectacle très vivant. Voilà. Et en ce moment, avec le procès du Bataclan là, qui a ouvert, eh bien, je trouve que c'est bien aussi que cet endroit vive et soit.
Alors, justement,
oui, soit énergique.
Puisque vous en parlez du Bataclan spécifiquement, hier, on recevait dans Culture Média la romancière Cécile Coulon. Et voici comment elle a réagi, c'était en fin d'émission, à l'annonce de votre spectacle. Nous, on se retrouve demain justement avec Frédéric Becbédé pour son DJ set littéraire qui va jouer au Bataclan les 23 ou 24 septembre. Ça vous tente ce genre de choses?
Alors, le Bataclan, pas vraiment. Les DJ, pas vraiment. Frédéric Becbédé, ça peut passer. Mais donc, en gros, je serai pas là, quoi.
Non, mais il y a des gens qui ont peur d'aller au Bataclan.
Oui, bien sûr, oui. Oui, bah, justement, vous parliez de Daft Punk. Il y en a un des deux qui est un copain et qui n'a pas voulu venir voir le spectacle parce qu'il ne peut pas remettre les pieds dans cet endroit. Et je respecte, évidemment, les gens qui sont angoissés par ce lieu. Je pense quand même qu'une réponse au terrorisme, c'est de continuer à faire vivre les endroits attaqués.
Je reviens au sujet sur votre dernier ouvrage, si j'ose dire, Bibliothèque de survie, 50 livres que vous avez choisis à dessein, à contre-courant de la morale ambiante. Vous pensez que la littérature est menacée par une forme de bien-pensance?
Bien sûr, oui, ça vient.
Bien politiquement correct,
mais est-ce qu'il
a infusé dans les livres?
Oui, écoutez, au Canada, on vient de brûler des Astérix et des Lucky Luke. Voilà, les talibans ont créé un ministère de la prohibition du vice et de la promotion de la vertu. J'espère que ce ministère n'arrivera pas en France un jour, parce qu'il y a quand même, une tendance à privilégier des œuvres d'art bienveillantes, bien pensantes, résilientes, comme on dit. Moi, je crois pas. Moi, je suis partisan de Baudelaire. Tu m'as donné de la boue, j'en ai fait de l'or. C'est-à-dire que la beauté peut aussi naître de choses ignobles. Et on doit regarder les deux, la beauté et la laideur.
Je posais la question différemment. Est-ce que vos romans, les premiers, pourraient sortir maintenant, publiés tels quels? S'ils étaient écrits maintenant?
C'est une bonne question, je ne suis pas sûr. Certains, je ne suis pas sûr. Honnêtement, Windows on the World, par exemple, qui est quand même assez insoutenable, ou même les personnages très machistes de mes livres des années 90-2000, qui se comportaient vraiment d'une façon indécente avec les femmes, inadmissible et que je désapprouve. Je ne sais pas s'il serait publié aujourd'hui. Non, peut-être que ce serait en tout cas un peu suicidaire si un auteur écrivait ça aujourd'hui.
J'ai appris grâce à vous que vous étiez passé, vous n'habitez plus à Paris, Frédéric Becbédé.
Non.
J'ai appris grâce à vous que vous étiez passé du syndrome FOMO au syndrome JOMO.
Joy of missing out.
Ouais.
Ben oui, c'est vrai que c'est assez agréable de tout rater.
Racontez ce qu'est FOMO, parce que moi je savais pas. Déjà, FOMO, je connaissais pas.
Les FOMO, c'est les gens qui ont peur, fear of missing out, si ont peur de rater quelque chose. Par exemple, les gens qui sont au Festival de Cannes et qui sont dans une soirée et qui croient toujours que la soirée mieux est ailleurs. J'ai vécu ça toute ma vie. C'est un cauchemar en réalité. Et là, peut-être, on se dit peut-être qu'il y a une meilleure émission ailleurs.
Ouais.
C'est horrible. Et donc, la JOMO, c'est la joie, au contraire, de se dire « je suis débarrassé, je loupe tout, et je suis content de tout rater.
Voilà. C'est parfait.
Et ça, là, c'est très agréable. C'est-à-dire qu'on n'est plus au Festival de Cannes du tout. On est dans une vie normale où on assume d'être à l'endroit où l'on est au présent.
À l'endroit où on est, c'est l'heure maintenant, nous, et nous, ici et maintenant, de Marc-Antoine Lebret. Chaque jour, bonjour Marc-Antoine, des personnalités qui viennent s'adresser à notre invité. Aujourd'hui, Frédéric Bédé, et c'est David Guetta qui a quelque chose à vous dire.
Ouais, salut Culture Média, est-ce que vous êtes là? Pas la peine de répondre, c'était juste une question rhétorique. Bim, rhétorique. T'as vu ça, Fredo? Moi aussi, wow. Je suis un DJ littéraire. Ouais, en tout cas, Fred, je te trouve hyper proche des auditeurs qui nous écoutent à 10h58. Sauf que toi, t'as des morceaux mixés dans ton spectacle et les auditeurs, ils ont des morceaux mixés dans leur assiette. Ouais.
Éric Zemmour est là pour vous, Frédéric.
Frédéric Bec-Bédé, bonjour. Je voulais vous dire que vous m'avez inspiré. Comme j'ai perdu mon poste à CNews, je compte donc lancer un spectacle pour lire moi aussi mes textes sur de la musique avec comme nom de scène Éric Didjemour. Je pourrais par exemple lire des passages de mon livre Suicide français sur du Mike Brandt, vous lire quelques pages de La France n'a pas dit son dernier mot sur la musique de la famille Bélier, ou encore vous lire des extraits de Destin français sur du Daniel Balavoine.
Jean-Claude Van Damme avec nous ce matin.
Bonjour, au revoir Frédéric, enchanté, on se parle plus tard. J'adore toute ta carrière, tes livres, tes films, tes arrestations. Vous avez vu? Moi non plus, je l'ai raté. Vous savez qu'un jour, j'ai confondu ma cocaïne et ma lessive. Résultat, j'avais les narines hyper propres et mes chaussettes, elles ont écrit la suite de 99 francs. C'est dingue, hein? Grand écart d'oreille.
Enfin, Marc-Antoine Lebret s'est mis dans votre peau en vous imitant.
Eh oui, Philippe, je voulais vous informer que 20 ans après la publication de mon roman à succès, 99 francs, je tourne la page en parlant plutôt de 0,00018 bitcoin. Mais la question que tout le monde se pose au sujet de DJ set littéraire et de savoir ce qui m'a poussé à faire un tel mélange. Eh bien, c'est justement après ce mélange, tequila, gin, vodka, alcool à brûler, que m'est venue cette idée. Ouais. Bonne journée.
Merci Marc-Antoine Lebret pour cette première. C'est la première C'était la première fois. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve demain à 9h pour Culture Média. Bec-Bédé au Bataclan, c'est le 23-24 septembre. Et puis, il y aura un disque qui va sortir.
Ah oui, je participe à l'album de Lonepsy, le prochain album de Lonepsy. Je crois qu'il sort en mars. Et on va même. Mais c'est, j'ai pas le droit de dire tout ça.
Alors ne le dis pas.
Je suis troublé parce que je sais pas si je peux parler maintenant que j'ai été imité. Est-ce que je ressemble à la voix d'avant? Je sais plus qui je suis.
Le vrai Bec-Bédé est avec nous. Demain, vous allez céder la place à la journaliste Nathalie Lévy, l'ancienne présentatrice des journaux de BFM TV, qui reprend l'émission culte de Canal+, arrêtée en 2007 en aparté, que vous avez failli reprendre. Et vous avez refusé de la reprendre, je me souviens très bien de ça. Et puis le réalisateur et comédien Laurent Lafitte pour son premier film, L'Origine du Monde. Juste après le flash, c'est Julia Vignali et Mélanie Gomez avec Bienfait pour vous. Le programme du jour.
Eh bien, on va parler de la vieillesse et on prétend que la vieillesse n'est pas un naufrage. Voilà.
Ah oui, au contraire, on peut même garder. La confiance en soi n'a pas d'âge, c'est de tout vous, à fait, Julia, Mélanie. Je crois. Voilà. Effectivement. Oui. Et puis on va parler, puisqu'on est dans la vieillesse, entre guillemets, d'un organe masculin dont on parle peu, la prostate. Ça peut vous intéresser, Philippe.
Bah, bien sûr, tout le monde en a une, non?
Comment en prendre soin, surtout, pour qu'elle reste en forme le plus longtemps possible.
On aura des détails. Voilà.
Il en parle aussi. Il raconte comment il va faire pipi plusieurs fois par nuit maintenant dans son spectacle. C'est le DJ set de Bec-Bédé. Si on m'avait dit qu'un jour j'allais prononcer le mot prostate en compagnie de Bec-Bédé dans une émission de radio, j'aurais jamais cru. Bonne journée, salut, à demain.